Salut à toutes et à tous, c'est Nina sur Canal B, il est midi 15 et vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de mémoire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Résistance ! De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Au sommaire aujourd'hui, on parlera agroécologie et sport. Une fois n'est pas coutume, côté sport, on parlera de quoi, Manon ?
On reviendra sur les propos sexistes du week-end dans le monde bien masculin du football. Spoiler, il y a de quoi être outré et se demander dans quel siècle nous vivons.
Superbe, et bien pour ma part, côté agroécologie, j'ai pu discuter avec Ludovic Josse, qui est membre de la Fédération régionale des CIVAM. Les CIVAM, ce sont ces centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural qui, comme d'autres acteurs qui luttent eux aussi pour une agriculture durable, ont appris le 22 décembre dernier que les financements qu'ils recevaient de la région Bretagne bien seraient diminués, voire supprimés. On va en parler dans l'interview du jour. Mais avant ça, eh bien, on parle d'un sujet qui a fait couler de l'encre et puis probablement quelques larmes de ouin ouin avec Manon et son billet d'humeur.
Mercredi 28 janvier a eu lieu le vote à l'Assemblée nationale de la fin du devoir conjugal, une notion qui était jusqu'alors entourée d'un flou juridique et qui voudrait que les époux et surtout les épouses se doivent d'avoir des relations sexuelles régulières.
Eh ben, il était temps, non ?
Oui, il était temps et je me suis amusée à lire le compte-rendu de la deuxième séance de débat à l'Assemblée nationale du mercredi 28 janvier 2026 qui correspond à celle du vote pour la fin du devoir conjugal. Et il s'avère que pendant ce débat, Élise Leboucher, députée La France Insoumise, propose un amendement ayant pour but de préciser à l'article 212 du Code civil que les époux s'engagent à vivre leur union sans aucune forme de violence. Un amendement rejeté par Paul Christophe, le député Horizon, qui est lui-même à l'origine de la proposition de loi pour la fin du devoir conjugal avec une autre députée, Marie-Charlotte Garin, écologiste.
Et pourquoi cet amendement a été rejeté alors ?
Selon Paul Christophe, l'obligation de vivre sans violence entre époux est inclue dans l'article 212 du Code civil depuis 2006. Pour son parti, l'expression « sans violence » engloberait donc toute forme de violence. Mais surtout, la raison que Paul Christophe invoque pour refuser cet amendement, c'est que pour que cette modification de loi ait une chance d'être votée au Sénat, il ne faudrait pas trop effrayer les sénateurs et sénatrices et leur donner le moins de boulot possible.
Ok, bon, ça peut se comprendre en un sens.
Oui, pourquoi pas, mais ce qui est le plus gênant, c'est la suite, puisque dans la foulée, Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national depuis 2022, a déclaré ceci.
Cet amendement-là qui vise à préciser que les époux s'engagent à vivre leur union sans forme de violence, écoutez, je suis désolée, mais c'est trop, enfin, c'est superfétatoire. Je veux dire, évidemment que quand on se marie, ça n'est pas pour exercer une violence contre son conjoint. Et moi, je regrette sincèrement que ce texte qui a une finalité utile soit quelque part instrumentalisé par les bancs de l'extrême gauche. En fait, on ressent, il y a clairement des relents antipatriarcaux et en fait, vous soupçonnez tous les hommes d'être auteurs de viol ou de violence et quelque part, vous jetez l'opprobre sur l'ensemble d'un genre.
Peut-être devrait-on lui faire lire les noms des quelques 165 femmes victimes de féminicide en 2025. Et c'est la même chose pour toutes les violences commises contre les femmes, puisqu'en 2024, elles sont plus de 270 000 à avoir été victimes de leur partenaire ou ex-partenaire, selon un bureau de l'État chargé de statistiques sur ce sujet. Donc, même si dans le monde idéal de la députée Diaz, lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour exercer une violence contre son conjoint, les chiffres montrent le contraire.
We'll be right back. écouter Big Dick Energy, un classique récent des Lambrini Girls, et pas mal en lien avec la thématique précédente, à savoir on parlait du devoir conjugal qui était discuté à l'Assemblée nationale. Espérons que ce morceau inspire les sénateurs et sénatrices qui auront à voter cette suppression. Vous êtes toujours sur le Canal B, toujours dans 3 en 1, et on va se téléporter tout de suite dans le Morbihan pour quelques instants. Ludovic Josse, vous êtes paysan à la Croix-Éléan dans le Morbihan. Vous avez avec trois associés un élevage de brebis laitières et vous faites des produits laitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes également trésorier de la Fédération régionale des CIVAM, ces centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Alors, il y a quelques jours, la région Bretagne a annoncé diminuer de 10 à 20% ses financements au réseau agricole bio, durable et paysan comme la FR CIVAM. Ces coupes budgétaires visent aussi les syndicats agricoles, mais aussi la Fédération régionale des agriculteurs bio. Concrètement, ces réseaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer à quoi travaillent-ils et à quoi servent-ils aujourd'hui ?
Ces trois réseaux, ils promeuvent une agriculture paysanne et une agriculture durable et bio aussi. Et en gros, nos structures, elles accompagnent les paysans vers la transition agroécologique. Et sur le terrain, ça se voit par des formations qu'on dispense auprès des agriculteurs pour changer de système, utiliser moins d'engrais, moins de pesticides, et certains pour ça va jusqu'à l'agriculture biologique où du coup on forme les agriculteurs à mieux travailler du coup sans intrants chimiques. Et si nos associations sont bridées parce que la région veut diminuer notre soutien, je ne sais pas qui va réaliser cette transition agroécologique sur le terrain.
Vous, en tant que vous êtes installé aujourd'hui, est-ce que vous en avez bénéficié aussi lors de votre installation, de ces formations, de cet accompagnement ?
Complètement. Déjà pour, notre système de production, il est basé sur les prairies et sur le pâturage. Tout ça, c'est des formations qu'on a fait en groupe, des formations sur la vie du sol, sur la comptabilité. En gros, l'action, elle repose sur l'autonomie des agriculteurs, que ce soit autonomie décisionnelle. En gros, on décide de nos modes de production et on décide de ce qu'on veut faire, quoi. On se laisse pas influencer par tout l'environnement qui tourne autour de l'agriculture, quoi.
Donc, on l'entend, ces réseaux-là, comme la FR CIVAM, ils accompagnent les paysans installés ou qui souhaitent s'installer vers des pratiques aussi agroécologiques et vers l'autonomie, comme vous venez de nous le dire. Quelle autre source de revenus vous avez, vous, dans ces structures-là pour financer vos projets au cours des années ?
Eh bien, ça va impacter. Nous, du coup, la FR CIVAM, on a 4 salariés. Et donc, ça veut dire des difficultés. Il va falloir retrouver de nouveaux financements, ce qui n'est pas simple. Donc, pour cette année, c'est-à-dire qu'on va devoir réduire la voilure. Ça veut dire que, on va avoir moins de temps pour accompagner les agriculteurs et les acteurs du milieu rural. Ça veut dire qu'on est obligé de réduire nos actions et donc du coup notre efficacité, quoi.
Et peut-être pour que les auditeurs et auditrices se fassent une idée en termes de volume de personnes accompagnées, généralement c'était combien sur une année, et cette année peut-être combien en moins cela va être, si vous avez une idée, une estimation.
Rien qu'au niveau des CIVAM bretons, on compte 850 adhérents agriculteurs, quoi.
Ok, donc c'est une petite part de ces 850 qui ne seront plus accompagnés l'année prochaine si les coupes se sont maintenues.
Ou moins bien en tous les cas, quoi. Des projets d'agriculteurs qui vont devoir s'arrêter ou bien réduire la voilure, quoi.
En plus de ces coupes de 10 à 20% là, que vous évoquez dans votre communiqué de presse conjoint avec toutes ces structures, vous parlez aussi de coupes ciblées. Je vous cite, à ces baisses généralisées s'ajoutent des coupes ciblées particulièrement graves. Pourquoi vous parlez de coupes ciblées et qu'est-ce que cela concerne comme projet ?
Eh bien, le Conseil régional de Bretagne affiche une ambition du bien-manger breton, d'accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique. Et ils décident de réduire les subventions à nos associations qui travaillent dans ce but-là. et pas forcément, ils diminuent pas forcément ou ils diminuent leur soutien de la même manière vers l'agroalimentaire ou l'agro-industrie. Donc, en gros, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ne font pas de choix, quoi. En gros, ils baissent les subventions à tout le monde, mais sans prendre le parti de favoriser tel ou tel type d'agriculture, quoi.
À la rédaction, on a interrogé la région justement sur le fait qu'elle affichait toujours un objectif, même une priorité de soutenir les pratiques d'agroécologie et un accès à une alimentation saine et durable pour tous et toutes en Bretagne, et qu'elle décidait tout de même de couper dans les budgets qui soutiennent les réseaux qui vont contribuer à ces objectifs-là. Elle nous a répondu que son objectif restait, et là je les cite, d'amener tous les agriculteurs, les 26 000 exploitations bretonnes vers l'agroécologie, quelle que soit leur production ou leur système, à travers une approche progressive. Et la région a pris l'exemple des 30 millions de crédits européens et des fonds régionaux qui sont amenés aux fermes via un dispositif qui s'appelle AgriInvest. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela est suffisant pour vous?
C'est toujours pareil, on amène l'argent directement sur les fermes pour l'acquisition de matériel, mais du coup on coupe les vivres à l'accompagnement de ces agriculteurs, sauf que le problème de l'environnement, il ne sera pas résolu qu'avec des machines ou améliorer des bâtiments. Il sera aussi la transition, elle va se faire s'il y a des gens pour accompagner les agriculteurs vers d'autres pratiques, quoi. Et donc la région a fait le choix de maintenir ces aides là. Mais du coup, elle coupe les vivres à l'agriculture de groupe, quoi, aux gens qui accompagnent les agriculteurs, quoi.
Et ça, pour vous, c'est quoi les risques concrètement? Parce que peut-être quand on n'est pas agriculteur ou agricultrice, on s'imagine pas trop ce que ça veut dire concrètement en termes de pratiques et de risques.
Eh ben, nos associations, enfin comme tout le monde associatif, on a un équilibre qui est fragile et qui en ce moment est difficile parce qu'il y a des coupes de budgétaires de partout. Et donc si nos associations qui sont indépendantes, qui n'ont pas de liens commerciaux, disparaissent, eh ben, les agriculteurs peuvent se retrouver avec uniquement des interlocuteurs privés qui ont soit des produits à vendre, soit du conseil à vendre, mais ça reste des boîtes privées qui ont tout intérêt à faire du chiffre. Nous, on travaille dans l'éducation populaire, on n'est pas là pour faire du profit, quoi. Donc on n'a pas... Notre action, elle n'est pas intéressée, quoi.
Oui, donc concrètement, ça veut dire que sur le terrain, lorsqu'il y a des agriculteurs et agricultrices qui ont besoin d'accompagnement, eh bien, la place, elle sera libre pour que viennent vers eux des personnes qui ont un intérêt privé à vendre des produits, du conseil, n'importe quoi. Là où vous ne pourrez plus être présent, alors que vous nous dites que vous représentez l'intérêt général et dans un esprit d'éducation populaire.
Thank you.
c'était My Heart Belongs to Someone Else de Zita Swoon dans 3 en 1. On parle toujours des baisses de financement de la région Bretagne pour les réseaux et acteurs qui défendent l'agroécologie. Nous sommes en compagnie de Ludovic Joss, qui est trésorier de la Fédération régionale des CIVAM. La région, elle supprime même son financement à un projet qui est cofinancé avec l'ADEME, donc une agence étatique, pour un projet qui relève d'une mission de service public. C'est le réseau des projets alimentaires territoriaux. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est quoi votre analyse de la situation ? Est-ce que, selon vous, la région, elle est en train simplement et purement d'abandonner son objectif de faire émerger l'agroécologie ? Ou est-ce qu'elle est juste prise à la gorge en termes de finances publiques, ou alors est-ce qu'il y a des pressions peut-être du côté des agriculteurs conventionnels aujourd'hui ?
Bah, je pense qu'elle est prise à la gorge par les baisses de financement, mais elle peut faire des choix. Là, c'est complètement aberrant. La FRCIVAM anime le réseau des plans alimentaires territoriaux bretons depuis un an. Le conseil régional avec l'ADEME et la DRAF s'est engagé à financer cette animation pendant 3 ans, et au bout d'un an, elle coupe les vivres. Donc du coup, il reste plus que 2 financeurs. Donc toute cette action, tous les chargés de mission alimentaires qui travaillent dans les EPCI. Donc du coup, on a créé une dynamique pour réunir tous ces gens-là pour qu'il se passe des choses sur les territoires. Et là, on va être obligé de réduire sacrément la voilure, parce que nous, du coup, quand on a décroché cet appel d'offres, on a une personne qui est dédiée à ce poste-là. Donc du coup, nous, ça remet carrément en cause le poste, quoi, si la région se retire de l'animation des PAT, qui est complètement contraire à tout ce qu'elle affiche sur son ambition de transition agroécologique et que tous les Bretons mangent sainement, quoi.
On va passer maintenant à une question plus spécifique. Parmi ces coupes budgétaires, il y a aussi la suppression annoncée des financements aux syndicats agricoles, donc qui, si j'ai bien compris, touche tous les syndicats agricoles uniformément. Mais cela dit, pour la Confédération paysanne, la suppression de ce financement, donc qui était à hauteur à environ de 15 000 euros, ça signifie la fin de la Confédération paysanne en Bretagne, puisque ça coupe le financement de l'unique salarié du syndicat. Interrogée également sur ce sujet, la région a répondu qu'elle ne voulait pas la disparition du syndicat. Vous, dans votre communiqué de presse avec les différentes structures, vous répondez « Sans cette subvention, la capacité de la Confédération paysanne à être présent dans toutes les instances est remise en cause. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette coupe directe ?
La Confédération paysanne a déjà très peu de moyens financiers. Et cette suppression de subvention, ça implique, comme elle le dit, donc du coup, il n'y aura plus d'animation au niveau régional. Et par contre, le syndicat majoritaire, lui, il a d'autres moyens. Il continuera à avoir peut-être, il aura peut-être moins de salariés, mais il y aura toujours une équipe en place, quoi. Ce qui veut dire que ça réduit beaucoup les capacités d'action de la Confédération au niveau de la Bretagne, ce qui est grave, quoi. De plus, nos associations, comme les syndicats, on siège dans plein de commissions. Et bien souvent, en tant qu'agriculteur, on siège bénévolement dans toutes ces commissions. Si nos associations disparaissent, c'est la pluralité de la profession agricole qui va disparaître aussi dans toutes ces commissions. Par exemple, il y a une commission régionale installation-transmission, il y a une commission régionale environnement. Si on n'a plus de soutien public, il n'y aura plus personne dans ces commissions si on disparaît aussi.
Peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des prochaines étapes ? Est-ce que vous avez eu une réponse en fait des élus que vous avez interpellés, ou une réponse de la région déjà officielle ?
On est en discussion avec eux par téléphone. Des choses semblent bouger sur le PAT, mais on n'a rien de concret encore. Et puis sur les baisses de 10 à 20% de subventions, pas d'éléments non plus nouveaux pour l'instant. Ça, je parle pour la FRCIVAM. Après, pour les autres associations, je ne suis pas dans le détail de ce qu'ils ont négocié pour l'instant, ouais, ou les retours qu'ils ont eus.
Donc le dialogue reste encore ouvert avec la Bretagne. Vous êtes en train d'essayer de garder le contact avec eux.
Ouais, carrément. Ouais. Là, le dialogue, il n'est pas coupé. Et j'espère que, qui vont revenir sur leurs décisions, au moins en partie, quoi.
Et dernière petite question peut-être d'ouverture, vous en tant que paysan installé, membre de la FRCIVAM, comment vous voyez l'année 2026 qui s'annonce là ?
Eh bien, financièrement, pour toutes nos, je le disais tout à l'heure, là, pour toutes nos associations, c'est de plus en plus difficile de boucler les budgets. Parce que les subventions se font de plus en plus rares, c'est pas simple. Après, nous, tout ce qui est tous les réseaux agriculture paysanne et bio et durable, on se sent quand même de moins en moins soutenu par le gouvernement. On voit bien que le syndicat majoritaire et l'agro-industrie font une pression énorme sur les politiques. Et apparemment, ça marche très bien, quoi. Dès qu'ils ont un rendez-vous au ministère, ils ont des réponses tout de suite. Et on a l'impression que sur la transition agroécologique, on recule petit à petit, quoi, depuis 2 ans, quoi.
Comment on peut peut-être vous aider là pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, qui habitent peut-être en ville ou plus proche de zones rurales où il y a des agriculteurs agricultrices? Comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire des dons? Est-ce qu'on peut donner de notre temps? Est-ce qu'on peut juste partager des informations, faire passer un mot?
Déjà faire partager des informations. En ce moment, il y a un gros combat sur la qualité de l'eau avec la révision du Sage-Vilaine. S'il y a des prochaines actions sur Rennes, donc du coup, c'est que les citoyens se mobilisent avec nous pour descendre dans la rue pour exiger que la qualité de l'eau, on doit être intransigeant, elle doit pas diminuer, quoi. On doit pas assouplir les règles de production agricole au détriment de la qualité de l'eau, quoi.
Et alors, vous n'avez pas répondu à ma question sur vous, votre exploitation. Est-ce que 2026, vous êtes quand même motivé malgré ces, on va dire, conditions structurelles moins enthousiasmantes? Et est-ce que ça se passe bien?
À nous, sur la ferme, ça se passe bien. On fait de la vente directe. Donc, du coup, on maîtrise nos prix de vente. On n'est pas soumis aux cours mondiaux. Donc, on a des clients, on a une bonne base de clients. Non, la ferme, ça marche très bien. C'est un système, l'élevage de ruminants en système herbager, en circuit long ou en circuit court, c'est une forme d'élevage qui économiquement est très performante. Non, on n'a pas de souci. Nous, on a 35 hectares, on est 4 associés, donc on arrive à rémunérer 4 personnes. Enfin, c'est vraiment bien, quoi.
Merci beaucoup, Ludovic Joss, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes paysan installé dans le Morbihan à la Croix-et-Léan, mais aussi administrateur et trésorier de la Fédération régionale des CIVAM. Et vous nous parliez aujourd'hui des récentes coupes budgétaires annoncées par la région Bretagne sur les réseaux agricoles, bio et paysans. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Dernier moment de votre émission d'actualité locale 3 en 1 et c'est la première chronique sport de l'année.
Et bonne année de 1926 à toutes et à tous. Après les propos tenus ces derniers jours par deux personnalités du monde du football, on peut se poser la question du siècle dans lequel on se trouve actuellement. Tout a commencé samedi 31 janvier lors du match entre le Paris Football Club et l'Olympique de Marseille. Au commentaire de cette partie, le fameux duo Christophe Joss et Daniel Bravo, ce dernier, ancien footballeur professionnel de 1980 à 2000, s'est bien illustré quand est apparue l'ancienne footballeuse Gaëta Itiné à l'écran. Que voit-on alors? On la voit en train de faire des gestes avec ses mains à l'intention de la femme à côté d'elle. On peut supposer qu'elle est en train d'expliquer la tactique en place sur le terrain, mais Daniel Bravo n'a pas pu s'empêcher une remarque sexiste en déclarant, je cite, « Elle n'est pas très attentive, j'ai l'impression qu'elle parlait lingerie ».
Personne n'a réagi en direct à ça ?
Alors si Christophe Joss a essayé de rattraper la bêtise de son binôme en déclarant, je cite, « Elle est comme vous Daniel, elle donne des explications techniques », il s'est même opposé plus fermement aux propos tenus par l'ancien joueur, mais du côté de Daniel Bravo, aucune excuse en direct. Si ses propos sexistes et déplacés sont problématique, peu importe la personne jugée, on peut d'autant plus s'indigner quand on sait qui il vise. Parce que Gaëta Itiné, c'est 25 ans de carrière, c'est 163 sélections en équipe de France pour 58 buts, celle qui a mis fin à sa carrière de joueuse en mai 2025, continue à apporter au monde du football. Il y a quelques semaines, en décembre 2025, elle a été nommée directrice sportive de la section féminine du Paris FC, le club dans lequel elle a joué plus de 430 matchs pour plus de 200 buts. Donc ses propos, en plus d'être problématiques, visent une femme qui a permis et permet encore aujourd'hui de développer le football féminin en France et plus encore, invisibilise sa contribution à ce sport.
Eh bien moi qui pensais que ça n'existait plus ce genre de remarques.
Malheureusement, ces remarques sont encore nombreuses et heureusement, les médias réagissent désormais rapidement à ce genre de propos. Dès le lendemain du match, dimanche 1er février, Daniel Bravo a donc été suspendu par la chaîne de télé beIN Sports.
Et ce n'est pas le seul à s'être fait remarquer ces derniers jours, n'est-ce pas ?
Et non, puisque dans un entretien avec le journal local L'Est Éclair, Guy Roux, entraîneur de l'AJ Auxerre de 1961 à 2005, a une nouvelle fois tenu des propos sexistes. Bon, après, pour l'octogénaire, c'est un peu devenu une habitude. Il a d'ailleurs toujours été assez clair sur le sujet. Pour lui, les femmes ne sont pas faites pour jouer au football. Leur jeu est beaucoup plus lent que le football masculin, comme un match de niveau départemental, comme il le dit si bien. Et ce week-end, dans l'entretien qu'il a accordé au journal Troyen, il a tout simplement déclaré, je cite, « Une femme est faite pour mettre des enfants au monde avec un bassin plus large, et le foot n'est pas fait pour les bassins larges. Bienvenue en 1926. »
J'ai l'impression que ces personnalités masculines, elles prennent beaucoup de place, mais surtout, elles vont à l'encontre du phénomène de féminisation du foot qui est en cours.
Et oui, pour la saison 2023-2024, plus de 250 000 licences féminines ont été comptabilisées, soit 10,5% du total des licences FFF, donc de la Fédération Française de Football, établissant ainsi un nouveau record pour le football féminin dans notre pays. D'ailleurs, d'après les chiffres de la FFF datant du 7 mars 2025, depuis 10 ans, la pratique féminine augmente de 10% chaque année et 4000 clubs amateurs comptent au moins une équipe féminine. Alors si statistiquement, les chiffres semblent évoluer dans le bon sens, il serait bien qu'il en soit de même pour les mentalités. Et cela passe avant tout par avoir des journalistes, commentateurs et anciens sportifs qui ne déclarent pas de tels propos dans les médias. Cela passe aussi par avoir plus de femmes en plateau pour commenter les matchs de football et pendant les débriefs, par une meilleure promotion des matchs de l'équipe de France féminine qu'on a beaucoup moins vu depuis la Coupe du Monde 2019, ou encore tout simplement par la diffusion plus massive de matchs féminins, puisque pour le moment, on ne peut pas dire que les chaînes se bousculent pour les diffuser, malgré une évolution ces dernières années.
Et ben ça nous fait un beau plan d'action tout ça, Guy Roux et consorts n'ont qu'à bien se tenir. Merci beaucoup Manon pour cette première chronique sport de 3 en 1, merci à notre invité Ludovic Joss de la Fédération Régionale des CIVAM d'avoir accepté de répondre à nos questions, et puis merci à toute la rédaction de Canal B. 3 en 1 c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve lundi à 12h15 pour la première de nos 4 émissions spéciales dédiées aux municipales, où vous pouvez nous écouter dès demain en rediffusion de 8h15 à 8h45. Bon après-midi et bonne fin de semaine à vous.